Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre débat sur RFI. Il y a 2 ans, il se produisait la pire catastrophe industrielle depuis l'explosion d'une usine chimique à Bhopal en Inde en 1984. Un bâtiment de 9 étages s'effondrait à Dhaka au Bangladesh, causant la mort de 1138 personnes, des ouvriers en très grande majorité qui travaillaient pour confectionner pulls, jeans, t-shirts pour les grandes marques de prêt-à-porter européennes et américaines. 2 ans après, les leçons de cette catastrophe ont-elles été tirées? Plusieurs initiatives ont été lancées pour mieux protéger les ouvriers du textile en Asie. Est-ce que ces initiatives sont suffisantes pour éviter à l'avenir de tels drames? C'est la question que nous posons ce soir. Nos 2 invités à nos côtés en studio, Katia Roux, responsable des campagnes pour l'association Peuple Solidaire Action Aid France. Bonsoir. Et Jean-Claude Javillier, professeur émérite de droit et ancien directeur du département des normes du Bureau international du travail. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question, je vous la pose, Katia Roux. Vous avez mené une vaste campagne pour que les groupes de textiles payent pour leurs responsabilités dans le sinistre. Est-ce que votre mobilisation a apporté ses fruits?
Alors, 2 ans après, le sort des survivants est en fait assez inquiétant, puisque la majorité d'entre eux souffrent encore de problèmes physiques, psychologiques et se retrouvent dans des situations économiques extrêmement difficiles. D'ailleurs, l'ONG Action Aid Bangladesh vient tout juste de publier une étude qui montre que près de 60% en fait des survivants consultent régulièrement des services médicaux ou des services sociaux et souffrent toujours de traumatismes et de dépression. Et du point de vue économique, plus de la moitié d'entre eux sont toujours sans emploi et ont des difficultés à subvenir à leurs besoins.
L'aide aux familles, donc c'était votre première préoccupation?
C'était notre première préoccupation et ça s'est traduit concrètement par la mise en place d'un fonds d'indemnisation fin 2013, dont la mise en place est à saluer effectivement, qui a été pilotée par l'Organisation internationale du travail, qui a été négociée avec les syndicats internationaux, nationaux, avec les entreprises, avec les ONG, avec les autorités bangladaises. Et simplement, ce fonds s'était fixé comme objectif 40 millions de dollars de réparation pour les victimes. L'objectif a été revu à 30 millions de dollars et aujourd'hui, 70% de cet objectif est atteint. Donc concrètement, il reste 8,5 millions de dollars à trouver pour verser des réparations aux victimes.
70% atteint, c'est une satisfaction pour vous, 2 ans après ?
Pas réellement, en fait, parce que voilà, je viens de citer les chiffres effectivement de cette étude. La plupart des victimes sont encore dans l'attente de cet argent qui n'arrive pas ou n'arrive pas assez vite. Et c'est vrai que sur le long terme, les dégâts sont très très difficiles à réparer. Donc pour nous, pour nos ONG, on appelle effectivement les marques à se positionner davantage. Certaines, les marques donc qui se fournissaient dans cette usine du Rana Plaza, pour celles qui n'ont pas contribué à contribuer, pour celles qui contribuent à faire un effort supplémentaire, parce qu'on estime que leur contribution aujourd'hui n'est pas suffisante au vu de leur capacité à payer. Ce sont des marques qui ont des chiffres d'affaires qui se chiffrent en centaines de millions, voire en milliards de dollars, quand leur contribution s'élève à 1 ou 2 millions. Donc c'est clairement pas suffisant pour nous.
Jean-Claude Javillier, c'est la première priorité à mener après un tel drame d'être auprès des familles de victimes, parce que bien sûr il y a le procès des sous-traitants derrière ce drame.
Bien sûr, et il faut rendre hommage à des organisations non gouvernementales telles que Action Aid pour le travail considérable qui a été fait, qui n'est pas d'ailleurs un travail seulement au regard des indemnisations nécessaires, mais de l'appréciation de la gravité de la situation. Et les rapports de ces ONG sont fondamentaux. Donc ce qui me paraît important, c'est de saisir cette occasion qui a été si dramatique dans ce pays pour réfléchir sur la nécessité d'un état de droit et du développement du travail décent.
Au Bangladesh.
Et c'est un cas extrêmement intéressant et qui a donné lieu à une mobilisation de l'organisation et aussi à une mobilisation d'organisations de pays aussi et qui ont contribué directement non seulement pour l'indemnisation mais aussi pour développer les inspections du travail, les questions d'hygiène et de sécurité, etc. Parce qu'en réalité, nous voyons bien que de tels événements ne peuvent se reproduire que si ensemble nous nous mobilisons, employeurs, travailleurs et gouvernements, en synergie avec les ONG pour développer un état de droit qui est la condition préalable du travail décent. Pas d'inspection du travail, pas de liberté syndicale, pas de certitude que de tels événements ne se reproduiront pas.
Katia Roux, justement, sur ces points-là, est-ce que la situation a évolué? Est-ce que les usines sont en meilleur état? Est-ce que les ouvriers au Bangladesh sont mieux payés?
Alors ça, c'est effectivement le deuxième aspect, le deuxième mécanisme qui a été mis en place. À côté du fonds d'indemnisation, il y a ce fameux accord sur la sécurité dans les usines textiles au Bangladesh qui a été proposé à signature aux marques donneuses d'ordre qui se fournissaient au Bangladesh. C'est un accord contraignant qui a aujourd'hui été signé par plus de 150 marques dans plus de 20 pays différents et qui prévoit donc effectivement des inspections indépendantes et la publication de ces rapports, mais aussi l'engagement des marques pour mener à bien les réparations, y compris une contribution financière des marques. Aujourd'hui, on sait que sur 2014, il y a plus de 250 usines qui ont été inspectées. Sur la dizaine de rapports qui a été publié, effectivement, ça met en exergue des problèmes de sécurité très graves. Et le problème que nous on pointe derrière, c'est que les marques signataires ne font pas forcément ce qu'il faut derrière. On a l'exemple d'Auchan qui a fermé directement une usine, alors que le but de cet accord, justement, c'est bien d'améliorer les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants et d'améliorer les conditions de sécurité.
Le problème, c'est quand une usine ferme, ce sont des gens du Bangladesh qui se retrouvent sans emploi.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous proposez face à cela?
Ben justement, que les marques prennent leurs responsabilités et au lieu de fermer et d'aller se fournir ailleurs, de pouvoir renforcer leur relation d'affaires avec ce fournisseur. Ce qui est prévu en fait dans l'accord, c'est que s'il y a effectivement une usine qui doit fermer parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, eh bien la marque puisse indemniser en fait les travailleurs au moins sur 6 mois. Et si l'usine ne peut pas réouvrir, eh ben dans ce cas-là, la marque doit tenter de réintégrer ces travailleurs dans d'autres usines. Donc l'idée, c'est réellement de faire évoluer les pratiques d'achat des multinationales et de faire évoluer les relations entre les sociétés donneuses d'ordre, leurs filiales et leurs sous-traitants.
Jean-Claude Javillier, vous disiez que finalement ce drame devait être une leçon pour tous les groupes de textiles. Est-ce que cette leçon a été tirée ?
Je crois que si nous parlons de la responsabilité sociétale des entreprises, il faut la voir de façon sérieuse et positive. Bien sûr, il y a des critiques qui peuvent être adressées, mais il est important que nous engagions sur ce terrain. Et je crois que, au fond, Kofi Annan a été un animateur fondamental d'un mouvement. Impliquer les entreprises et des acteurs privés, les parties prenantes, dans le développement de l'état de droit. Et en prenant en considération la situation du pays, parce que quand même, ce domaine-là, c'est, je crois, d'une certaine façon, 80% de l'économie. Et d'une certaine façon aussi, un travail majoritairement féminin.
Deuxième exportateur mondial, le Bangladesh. Absolument. Au niveau du textile.
Absolument. Et je pense que, en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que les entreprises jouent leur rôle, mais en aucun cas, nous ne pouvons nous satisfaire seulement d'initiatives privées. Il faut que l'État aussi se développe. C'est pourquoi, notamment, lorsqu'il y a eu ces coordinations opérées par l'OIT, tout le secteur de la sécurité, de la lutte contre les incendies, a été revu dans ce pays. Il y a un effort qui est fait. Et je pense qu'il est important d'avoir une vision large, c'est-à-dire pas seulement de l'accident lui-même, mais de tout ce qui peut contribuer à la gravité d'une situation.
Alors, il y a l'indemnisation des familles des victimes, on l'a dit, avec la création d'un fonds d'indemnisation, les usines qui ont été sécurisées, qui ont été inspectées, mais finalement, à chaque fois, ce sont des textes ou des qui ne sont pas contraignants. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une pression judiciaire pour encore faire avancer les choses, pour éviter à l'avenir de nouveaux Rana Plaza? Katia Roux.
Oui, absolument. Cet accord, en fait, sur la sécurité est censé être un accord contraignant, déjà, à l'origine. Après, je suis d'accord, il ne s'agit pas juste de pointer la responsabilité des entreprises. Il y a aussi l'État qui doit être dans son rôle, effectivement, de protection de ses citoyens et donc de mise en œuvre des cadres juridiques qui sont déjà en place. Ensuite, il y a aussi un besoin d'évolution des cadres juridiques. Je vous renvoie, justement, à l'actualité française du jour, quasiment, puisqu'il y a en ce moment un débat sur une proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales envers donc leurs filiales et leurs sous-traitants qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 30 mars, donc c'est vraiment tout récent
et qui... Donc désormais les multinationales doivent prévenir quand il y a des atteintes aux droits de l'homme du côté de leurs sous-traitants.
Alors, Dans l'idéal, oui, mais c'est pas fait parce que la loi vient juste d'être passée, d'être adoptée en Assemblée nationale. Elle doit maintenant passer au niveau du Sénat. Maintenant, nos organisations restent quand même très vigilantes et quand même inquiètes. Un, sur le contenu de la loi, puisque le texte a été revu un petit peu, les ambitions ont été revues à la baisse avec la charge de la preuve, par exemple, de violation de droits humains qui incombe aux victimes, ce qui est un peu compliqué, avec l'absence de mécanisme de sanction, effectivement, si le devoir de vigilance n'est pas appliqué, avec aussi des seuils qui sont prévus, c'est-à-dire que seules les entreprises qui ont 5000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde seraient concernées, ce qui exclut par exemple Camailleux dans le cas du Rana Plaza, n'aurait pas été inquiété, enfin en tout cas inquiété, n'aurait pas été redevable dans le cadre de cette loi parce qu'elle ne rentrerait pas sous ces seuils. Donc il y a des aspects de cette loi qui nous inquiètent, nous ONG. Maintenant, la deuxième grosse inquiétude, c'est que maintenant il faut que ça passe au Sénat.
Et alors, ça, c'est vraiment pas encore fait. Vous citiez Camailleux, je voudrais rebondir sur cet aspect-là parce que effectivement ce projet socialiste prévoit de prévenir quand il y a des atteintes aux droits de l'homme du côté donc des sous-traitants étrangers pour les groupes de textile, mais ça règle pas le problème de la sous-traitance non déclarée. Et c'était effectivement le cas de Camailleux qui était le seul contributeur français au fonds d'indemnisation des victimes et qui affirme avoir été victime de sous-traitance non déclarée. Est-ce que à ce point-là finalement une marque peut ne pas suivre ses chaînes de production? C'est possible ça, la sous-traitance non déclarée, ou est-ce que c'est de la mauvaise foi?
Alors, c'est possible et c'est de la mauvaise foi, en fait. Ouais. Alors, il s'agit plutôt d'Auchan, en fait. C'est plutôt la marque Auchan qui nous opposait cet argument en disant « Oui, vous avez retrouvé des étiquettes de notre sous-marque dans les décombres du Rana Plaza, mais on n'était pas au courant. » Donc, c'est de la sous-traitance.
Il y a eu également
sauvage.
Le cas Camailleux. Effectivement, Auchan affirme n'avoir jamais passé de commande aux ateliers du Rana Plaza, alors qu'un pantalon enfant, c'est ça, a été retrouvé dans les décombres.
Voilà, et des étiquettes de la sous-marque Inexcenso, effectivement. Et donc, du coup, ce discours-là, en fait, cette approche-là n'est pas recevable pour nous, parce que de fait, même si la marque donneuse d'ordre n'a pas connaissance de cette sous-traitance sauvage, c'est de la responsabilité de la multinationale et de la société mère pour les filiales ou donneuse d'ordre pour les sous-traitants que de s'assurer qu'il n'y a pas de violation de droits humains dans sa chaîne d'approvisionnement. Donc c'est du devoir de ces entreprises que de contrôler leur chaîne d'approvisionnement. Donc l'argument de dire on n'était pas au courant, il n'est pas recevable. Il est peut-être vrai, peut-être que la marque n'était pas au courant, mais pour nous il n'est pas recevable en l'état.
Jean-Claude Javillet, est-ce que le contrôle des sous-traitants aujourd'hui dans le monde est totalement transparent?
Transparence, vous savez, le monde est relatif et il ne faut être ni bisounours ni cynique. Je crois qu'il n'est pas toujours facile de contrôler l'application des normes à distance et même sur le terrain. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que il est souhaitable que les législations soient adoptées. Je ne porte aucun jugement sur la législation française. Mais il est vrai que nous devons désormais agir avec une palette d'instruments normatifs. C'est-à-dire, d'une part, des législations, mais pas un pays seulement.
Normatif veut dire contraignant?
Oui, veut dire contraignant, et des contraintes différentes, qui peuvent être de nature différente, mais il faut que ce soit aussi au niveau régional, et l'Union européenne, bien sûr, entend agir, et s'est déjà engagée sur ce terrain. Mais je pense qu'il est important aussi de promouvoir tout ce que l'on appelle, en anglais, la soft law, c'est-à-dire les normes qui peuvent influencer des codes de pratique, à condition qu'il y ait un suivi, qu'il y ait des contre-pouvoirs, qu'il y ait, autrement dit, un véritable état de droit qui se développe à partir de ces normes-là.
C'est vrai que, Katia Roux, on évoque depuis le début, finalement, ces groupes qui ont ou pas amendé, qui ont rejoint le fonds d'indemnisation des victimes. Il manque une harmonisation au niveau soit européenne, soit internationale sur ce point-là?
Oui, l'idéal serait qu'il y ait un cadre juridique effectivement harmonisé qui contraigne en fait toutes les marques. Mais sur l'aspect norme effectivement volontaire, là ça devient compliqué parce qu'en fait toutes les marques effectivement font état de codes de conduite, de chartes éthiques ou autres.
Mais comment vérifier?
Typiquement, on a mis une action contre Auchan, par exemple. On a porté plainte, en fait, avec d'autres associations, donc l'association Sherpa, le collectif éthique sur l'étiquette et donc Peuple Solidaire Action Aide France. On a déposé plainte auprès du parquet de Lille pour pratiques commerciales trompeuses, en fait. L'idée, c'était de montrer le grand écart entre les engagements éthiques de la marque Auchan et puis finalement ce qui se passe sur le terrain. Exemple, Rana Plaza. La plainte a été enregistrée, une enquête a été ouverte et finalement on vient d'apprendre, en tout cas au début de l'année, que la plainte a été classée sans suite. Faute de preuves suffisantes. Donc, effectivement, nous, on est dans cette démarche-là d'avoir un cadre juridique contraignant et une RSE contraignante, une responsabilité sociale des entreprises contraignante, parce qu'on constate depuis quelques années que l'approche volontaire, via les codes de conduite, via les chartes éthiques, n'est pas suffisante et sont souvent utilisées comme des outils de communication et des vitrines par les multinationales.
Jean-Claude Javillier, la justice doit davantage s'emparer du dossier ?
Incontestablement, mais ce qui me paraît important, c'est de souligner que la RSE doit être quelque chose de sérieux et non pas une opération de communication. Premier élément. Deuxième élément.
RSE, responsabilité sociétale des entreprises.
Sociétale des entreprises. Et qui ne concerne pas seulement la dignité au travail, le travail décent, mais aussi l'environnement, etc., toutes ces questions. Et l'autre élément que je voulais dire, c'est que il est important aussi que les entreprises d'un secteur puissent ensemble travailler sur ce sujet. Et je crois que dans les télécommunications, quelques secteurs, il y a maintenant des audits regroupés, il y a des capacités communes. Je crois que c'est important aussi de traiter très sérieusement de cette question.
Katia Roux.
Oui, là-dessus, de fait, il faut créer comme ça des synergies, des convergences. Nous, ce qu'on constate, c'est que si les travailleurs et les représentants des travailleurs à travers les syndicats locaux, enfin nationaux et internationaux ne sont pas présents, et bien souvent la voix des travailleurs et des travailleuses est oubliée. Donc nous, ce qu'on dénonce souvent dans les regroupements inter-entreprises, c'est cet entre-soi finalement de discuter effectivement de codes, de programmes d'inspection ou autres qui sont sur le papier très beaux, mais qui ne prennent pas du tout en compte la voix des travailleurs. Moi, je reviens sur ce que vous avez dit au début. Effectivement, le point positif, on va dire, de ce fonds d'indemnisation, de cet accord, c'est qu'il a été négocié. Ils ont été négociés avec les premiers concernés, donc les travailleurs via les syndicats bangladais, les syndicats internationaux, les entreprises, les ONG, les pouvoirs publics. Si effectivement on laisse de côté la voix des travailleurs, on n'arrivera à rien. Et beaucoup d'entreprises nous servent ce discours de oui, vous nous proposez un accord ou voilà votre démarche. Finalement, nous, on en a déjà une. On a déjà tout un tas de programmes d'inspection ou de démarches éthiques. Et finalement, on ne va pas faire doublon. Eh bien non. Si vous ne prenez pas en compte la voix des premiers concernés, on n'avancera pas. Et ça se reproduira sans cesse.
Jean-Claude Javillier, votre réponse.
Tout ce qui est à l'heure actuelle fait démontre que le tripartisme, avec une synergie avec les organisations non gouvernementales, est au cœur d'une effectivité de toutes les normes. C'est-à-dire que, au fond, ce qu'on croyait un peu vieillot, le tripartisme, est d'une actualité formidable, et je rends grâce aux organisations d'employeurs et de travailleurs, et aussi aux ONG, bien sûr.
Mais j'envoie la balle, vous n'êtes pas d'accord, Katia Roux?
Si, en fait, non, je peux être qu'être d'accord avec oui. Avec ce salut, mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, si on revient sur le cas du Bangladesh, on se rend compte que les demandes, on se rend compte du décalage en fait entre les demandes effectivement des travailleurs et en fait ce qui est porté après, soit par les autorités ou par les entreprises. Un exemple très concret et très simple, le salaire minimum dans l'industrie textile au Bangladesh était de $28 par mois. Oui. C'est ridicule. Mobilisation très forte suite au Rana Plaza et au drame du Rana Plaza.
Il a augmenté.
$50. Il a $50. Mmh. $50 par mois. Or, les syndicats demandaient quoi? Les syndicats demandaient $100. Et finalement, on se rend compte que si on prend en compte ce qu'on appelle le salaire vital, c'est-à-dire pas simplement la rémunération, mais aussi les besoins pour se nourrir, pour s'habiller, d'éducation, se loger, etc., et ben il doit être de $260 par mois. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut... Il y a encore beaucoup à faire, absolument. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, il y a une augmentation, on passe de 28 à $50, mais on est loin des 100 et encore plus loin du salaire vital qui a été proposé par les premiers.
Ça renvoie finalement à la situation économique au Bangladesh également, ce type de question, Jean-Claude Javillier.
Bien sûr, et je crois que nous devons absolument prendre en considération le contexte économique réel et savoir quelle est la situation des travailleurs et le fait est leurs représentants et les ONG sont de nature à nous éclairer de ce point de vue. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que il y a une préoccupation que nous avons, c'est que les évolutions sont diverses, les vues de vie sont différents, mais il y a dans chaque pays des évolutions à faire qui sont les préalables pour un développement économique et social. Et de ce point de vue, je m'en excuse, ces affaires malheureuses sont une bonne occasion de prendre conscience de tous côtés, employeurs, travailleurs, comme ONG, de la synergie nécessaire.
Katia Roux.
Oui, pour rebondir peut-être sur la question du niveau de vie, finalement, quel que soit le niveau de vie du pays, parce qu'effectivement, on peut se dire, faut comparer ce qui est comparable, on estime que les travailleurs et les travailleuses doivent être en capacité de subvenir à leurs besoins, quel que soit le niveau de vie dans le pays. Or là, voilà, c'était pas le cas. Donc l'idée, c'est d'avoir un salaire décent, vital, qui permette de subvenir à leurs besoins. Et aucun être humain ne devrait être dans une position de mettre sa vie en danger en allant au travail le matin.
Merci Katia Roux, le débat est maintenant terminé. Responsable des campagnes pour l'association Peuple Solidaire Action Aid France. Merci Jean-Claude Javibier d'avoir répondu également à l'invitation de RFI. Vous êtes professeur émérite de droit, ancien directeur du département des normes du Bureau international du travail. Merci à vous d'avoir suivi ce débat sur Radio France Internationale, débat que vous pouvez réécouter sur notre site internet www.rfi.fr en 30 secondes. Un nouveau point sur l'actualité.